bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale, retour en Île-de-France en 2016 pour cette nouvelle année. Je suis avec le président de la Ligue Île-de-France, Robert Iazzoni. Bonjour Robert.
Bonjour Stéphane, bonne année et comment vas-tu?
Bah, bonne année à toi aussi. Écoute, ça va bien sur Fréquence Diagonale. On a, je crois, rempli nos objectifs 2015, on a traité de beaucoup de sujets. Pour cette année, c'est un peu la même chose. Alors, forcément, un petit tour des ligues aussi, pour celles qui répondent, parce qu'elles ne répondent pas forcément toutes tout le temps. Mais en l'occurrence, la Ligue Île-de-France, c'est une ligue qui compte, bien entendu, et qui a fêté ses 90 ans l'an dernier.
90 ans l'an dernier, oui, une année assez riche en événements, enfin pas assez, complètement riche en événements, une année magique sur le temps humain. J'en profite pour dire vive le bénévolat, c'est le retour qu'on a. Donc une année très très riche qui je vais revenir, bah, a démarré en trombe par un championnat qualificatif jeune avec plus de 700 jeunes qui sont venus au mois de février 2015, donc au championnat d'Île-de-France, faire des parties donc sur toute une semaine, ouais, en cadence lente, hein, une cadence pour rappeler peut-être aux jeunes licenciés qui arrivent, hein, donc la cadence lente, c'est-à-dire des parties qui peuvent durer 4-5 heures. Donc 700 jeunes sont venus à Paris pour tenter de se qualifier au championnat de France.
Alors sur ça, je suis obligé de te poser une question complémentaire. Tu me dis, donc 700 jeunes pour un championnat régional, donc qualificatif pour le grand championnat de France, le plus grand événement jeune de la saison.
Ouais.
Mais là, déjà, 700 jeunes, c'est tout à fait colossal comme chiffre pour un championnat régional.
Ah oui.
Comment c'est possible d'avoir 700 jeunes pour combien de départements en Ligue?
Alors, donc l'Île-de-France, ce sont 8 départements qui entourent Paris. Donc, les 8 départements qui entourent Paris, nous avons la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-d'Oise et donc les Yvelines et l'Essonne. Donc voilà, les 8 départements qui entourent la Seine-Saint-Denis. L'Île-de-France, alors ça je ne l'ai pas dit Stéphane, mais cette année, enfin en 2015, a explosé son record de licenciés pour la deuxième année consécutive. On avait 11 241 licenciés.
Ah oui.
On avait... Les clubs avaient, voilà, les licenciés, 11 241. Ces 11 241 licenciés sont donc regroupés donc sur ces 8 départements. Et donc chaque département fait donc une première qualification départementale.
Oui.
Une départementale, donc là, cette fois-ci, c'est une cadence rapide. Donc des parties de moins d'une heure, hein, moins d'une heure, voire moins d'une demi-heure pour les tout petits, hein, pour les poussins, petits poussins. Donc ces jeunes, eh bien les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont un nombre de points suffisant, voilà une règle qui a été adoptée, un nombre de points suffisant, vont se qualifier pour arriver à donc plus de 700 dans cette phase régionale. Donc moi, chaque année, je le dis, et là je profite de Fréquence Diagonale pour remercier tous les présidents de club, tous les parents, parce que c'est grâce à leur investissement dans leur club qu'ils ont pu faire des qualifications départementales avec beaucoup de jeunes. Paris a reçu 400 jeunes et ne pouvait pas en recevoir plus parce qu'ils n'avaient plus de place. Sinon, 500 ils les mettaient, 600 ils les mettaient. La demande était là. Malheureusement, voilà, les salles ne sont pas élastiques.
Ouais.
Donc, bravo à tous ces présidents de clubs. Et puis, ben, les meilleurs d'entre eux, ils se sont retrouvés à 700. Pour venir donc au gymnase Louis Lumière, à côté de la porte de Bagnolet, au mois de février dernier. Donc voilà, 700 sur ces 700, 140 sont allés défendre les couleurs de l'Île-de-France au championnat de France ensuite.
Ouais, c'est magnifique, surtout oui. Alors pour les 90 ans de la Ligue, battre un record de licenciés et un championnat régional jeune à 700 participants, qui est aussi un record, c'est un bel anniversaire.
Alors c'est un bel anniversaire et on s'est dit, mais cet anniversaire-là, il ne peut pas être seul, ces jeunes ne peuvent pas être seuls, il faut que ces jeunes ils soient en mesure de dire, et notamment les jeunes qui... Il y avait des jeunes pour qui c'était la première année, qui prenaient leur première licence. Hein. On peut prendre une première licence et réussir. Hein. Les échecs, c'est un sport, il suffit de s'y investir. Il ne suffit pas que de s'y investir, mais en tout cas, ça en fait partie. Et on a dit, on va faire un tournoi avec des anciens champions jeunes. Et donc, c'est un tournoi, ce qu'on appelle un tournoi de maître, donc un tournoi où des joueurs titrés donc maître international hein, pour nos amis auditeurs, vont jouer contre des non-titrés, et ces non-titrés étaient des jeunes. C'était des jeunes qui, eux, étaient déjà, on va dire, qualifiés d'office pour les championnats de France. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu compliqué pour nos auditeurs,
mais dans
les 700, les 700 doivent, eux, se... Bah, combattre sur l'échiquier pour se qualifier, mais il y en a d'autres, il y en a plus que 700, il y en a qui, eux, grâce à leur classement, sont déjà qualifiés au championnat de France.
Donc,
on leur a donné une belle surprise, c'est que au milieu de cette salle de 700 joueurs, et bah, il y avait 10 joueurs qui donc sont venus, des joueurs titrés, qui sont venus jouer contre des non-titrés. Alors, je vais en citer un parce qu'aujourd'hui, il est grand maître international. Il fait ses études entre Paris et les États-Unis. Il est évidemment d'Île-de-France. C'est Sammy Schocker hein,
oui.
Qui est champion de France de blitz et qui est grand maître international aujourd'hui. Donc, lui, il était là parmi ces jeunes. Il a été lui aussi champion quand il était jeune. Maintenant, il est moins jeune. Et il était au milieu de tous ces jeunes pour dire, voyez, vous jeunes, vous avez 6 ans, peut-être qu'à 20 ans, vous serez grand maître international comme moi et que vous serez là.
Ah oui,
donc, c'était magnifique.
C'est magnifique et ça veut dire que pour ces jeunes qui étaient déjà qualifiés, donc avaient déjà un niveau assez fort, ça leur a permis aussi de faire un tournoi de préparation finalement pour, en vue du championnat de France et d'améliorer leur niveau pour ceux qui ont pu faire ça. Et puis Sammy Schocker, comme tu disais, est champion de France de blitz. Alors moi, j'ai vu sa victoire. Hein, c'était au championnat de France toute catégorie à Saint-Quentin.
Ouais.
Il est venu, il a joué et il a vaincu. c'est un grand joueur, bien sûr. En plus, très très sympathique. Hein,
ah oui.
Qui est redoutable sur l'échiquier. Donc là, ça c'était donc un grand événement. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait aussi un très beau championnat de Paris.
Ah oui, on se devait hein, pour les 90 ans de la Ligue. Alors on le rappelle, hein, le championnat de Paris 90 ans qui a été créé juste après la création de la Fédération internationale des échecs, qui elle a été créée à Paris. Hein, donc on remonte à loin et pendant ce championnat de Paris où on a eu encore une fois proche des 700 joueurs, on a fait cette fois un tournoi de grands maîtres, donc avec des très forts joueurs cette fois, hein, puisque le vainqueur du championnat de Paris, c'est un joueur d'origine indienne qui s'est fait éliminer, je crois, en huitième de finale du championnat du monde. Une grosse fête, encore une fois, au mois de juillet dernier. Donc le joueur indien, c'était, je vais pas écorcher son nom, c'était Sethu Raman, je vais pas écorcher son nom, Sethu Raman, donc qui a remporté ce championnat de Paris, ce tournoi de grand maître, qui était là également pour faire partie de la fête, avec encore une fois des parties très très longues. Alors l'anecdote pour les auditeurs, c'est que le championnat de Paris, il démarre à 19h et on a eu une partie qui a duré 141 coups et qui a fini à 1h20 du matin.
Ah oui, donc ça c'est quand même un sacré record aussi ça.
Oui, ça c'est le record, hein. 1h20 du matin, donc en ayant démarré à 19h. C'est ça la magie des échecs, c'est aussi ça. C'est pas que du blitz, c'est aussi ça effectivement. Et on n'a pas parlé Stéphane, mais avant le championnat de Paris, on a eu évidemment le championnat de France de blitz.
Ah voilà, donc là c'est le fameux, mais on va y venir, parce qu'on
va y venir.
On va bien sûr reparler aussi de cette saison. Là, on fait le bilan de la saison dernière. Donc, c'est le fameux R&B. Alors, je crois que c'est toi qui l'as baptisé comme ça.
Effectivement, le R&B.
Ça veut dire rapide, en fait, et blitz, mais ça colle bien avec R&B. Donc, c'est un jeu de mots hein, sur le thème musical, bien sûr. On avait compris, mais c'est un jeu de mots bien, bien trouvé. Et je crois que ce nom, hein, ça lui colle bien. Donc, rapide et blitz. Alors, c'est deux jours, là, hein, très intense, avec un championnat rapide qui, parfois, est un championnat de France. Donc, ça dépend des années, ça. Ça dépend si la Fédé lui donne le label ou pas, hein, si j'ai bien compris.
Mais, exactement.
Mais c'est quand même un grand... Maintenant, c'est devenu... Et ça manquait, d'ailleurs. Donc, c'est un des atouts... cette création-là est un des atouts de la Ligue Île-de-France, ce grand rapide régional et... ce grand blitz régional, puisque donc en deux jours, on a le temps de faire un championnat de partie rapide, qui sont quoi, c'est 15 minutes ou 20 minutes par joueur, et donc,
exactement.
Et un blitz, où là, c'est 5 minutes par joueur, donc ça va beaucoup plus vite, bien sûr, et les deux sont jouables en deux jours, avec des joueurs qui sont en forme, ils ont l'habitude d'enchaîner comme ça deux jours intenses pour des cadences rapides. Donc c'est un grand moment parce que en deux jours, on peut faire un grand nombre de parties et côtoyer les plus grands joueurs, même de la planète, hein, parce qu'on a vraiment
alors, il y a une tradition au RNB, enfin la tradition, elle est pour le vainqueur. C'est-à-dire que le RNB, en 2014, le vainqueur du samedi a gagné le dimanche. Et en 2015, c'était pareil, le vainqueur du samedi a gagné le dimanche. Alors, on va faire peu, pour ne faire que si peu. En 2014, c'était Maxime Vacher-Lagrave, donc aujourd'hui, je crois virtuellement numéro 6 mondial, qui avait gagné le samedi et le dimanche. L'année dernière, Maxime nous a fait l'honneur de passer sur le tournoi à lancer la dernière ronde, donc qui était là à la remise des prix, et le vainqueur, c'était Laurent Fraissinet, qui lui a gagné le samedi et le dimanche. Donc encore une fois, un joueur parmi l'élite mondiale, on a les meilleurs joueurs français qui sont là, et puis comme tu dis, de la planète, on y est aussi.
Et voilà, on y est aussi, donc vous voyez, en Ile-de-France, là, en deux jours, sur ce fameux R&B, et on va en parler puisqu'on n'est pas loin de la date de 2016, on va y venir, mais doucement, parce qu'on va reparler de cette saison. Et effectivement, donc Maxime Vacher-Lagrave qui l'avait emporté, les deux, donc, et puis Laurent Fraissinet l'an dernier, brillamment aussi. Alors, pour cette année maintenant, donc ces 90 ans sont passés, donc là c'est la 91e anniversaire.
Ça va être difficile de faire moins bien.
On va difficilement faire moins bien. Alors, donc, alors on n'a pas encore bien sûr le bilan sur les licenciés, mais on peut supposer que la tendance est là. Avec 11 240 l'an dernier, il n'y a pas de raison que ça baisse.
Aucune raison, effectivement.
Voilà, donc on peut supposer que ça marche très très bien. Les clubs sont contents, l'activité. Et là, les tournois sont là. Alors, donc cette année, donc ont eu lieu déjà les championnats départementaux pour les jeunes.
Et pas tous. Il y en a qui ont lieu encore sur le mois de janvier, mais compte tenu des événements qu'a connu la France et l'Île-de-France notamment là sur la fin d'année. Oui. Donc il y a des ligues, enfin des départements qui n'ont pas encore fait leur qualification, mais tout sera fait. Donc évidemment, puisque les championnats qualificatifs jeunes ont lieu le 29 février, du 29 février au 4 mars. Oui. Donc ils ont lieu, donc tous les départements auront terminé ça avant. Hein,
d'accord.
Évidemment.
Et alors si je suis un jeune joueur et que je me suis pas qualifié lors des départements, est-ce que il y a possibilité quand même de venir à cet événement?
Voilà. Exactement. Il n'y a pas de. Alors il y a deux choses. C'est que ces qualifications on appelle ça un festival international des jeunes. Pourquoi un festival? Parce que, comme tu dis, il y a les jeunes qui se sont qualifiés, qui eux ont un objectif. Le premier, c'est d'être qualifié pour les championnats de France, mais le premier peut être aussi d'être champion d'Île-de-France. On dessert aussi le titre de champion d'Île-de-France, et le titre de champion d'Île-de-France, il peut être gagné, comme tu l'as dit Stéphane, par quelqu'un qui ne s'est pas qualifié, ou même par quelqu'un qui n'a pas pu jouer ces championnats qualificatifs départementaux. Un exemple, quelqu'un qui au mois de novembre dans son département était malade, il n'a pas pu venir, c'était sur une journée, comme on l'a dit, c'était une cadence rapide, donc voilà, t'es malade une journée, tu peux pas, donc mince, il se dit j'irai pas au championnat de France cette année qui auront lieu à Gonfreville au mois d'avril, mais il dit mais moi j'ai quand même envie d'être champion de la Ligue Île-de-France des échecs.
D'accord.
Donc il peut être quand même comme les autres. Je vais faire un autre tournoi, celui qui ne sera pas le même. Forcément, je vais pas, je vais pas me mettre dans ceux qui eux jouent pour une qualification. Par contre, je vais faire un autre tournoi et on fera des départages parce que je veux gagner mon titre de champion d'Île-de-France.
D'accord. Il va gagner. Mais c'est un titre de champion de France qui ne sera pas qualificatif quand même au championnat.
Exactement. Il ne sera pas qualificatif, mais enfin. Champion d'Île-de-France, c'est champion d'Île-de-France quand même.
Ouais. Mais c'est un petit paradoxe quand même sur la formule, parce que donc il va pouvoir dire je suis champion d'Île-de-France, mais il y a ceux qui sont pas champions qui vont quand même aller au championnat de France à ma place.
S'il a pas pu faire le championnat départemental, c'est pas non plus de la faute des autres. Donc à l'inverse du jeune qui n'a pas pu faire les championnats départementaux. Pour une raison X, il a le droit donc de concourir pour le titre de champion d'Île-de-France. Donc ça peut être paradoxal, mais celui qui lui est qualifié d'office, comme on le disait tout à l'heure Stéphane, donc qui est qualifié d'office grâce à son classement, lui ne fait pas donc le tournoi qualificatif, mais on ne peut pas quand même lui empêcher de devenir champion d'Île-de-France.
D'accord.
Donc lui aussi fera la séance de départage. Donc dans une séance de départage, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas fait la séance départementale, eh bien parce qu'il n'était pas présent ce jour-là, et on peut avoir celui qui a fait le championnat qualificatif et donc qui a joué contre d'autres pour aller au championnat de France, et en même temps celui qui a été qualifié d'office. Donc voilà, les départages vont servir à ça. C'est pas paradoxal. Après, il y a ce choix du cheminement des règlements dans l'ordre, les départements, pour pouvoir faire l'Île-de-France, pour pouvoir faire les championnats de France.
D'accord. Alors, donc, si on nous écoute là, ce championnat, donc tu nous as dit du 29 février
au 4 mars.
Au 4 mars, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir? Il faut appeler la Ligue?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir? Déjà, il faut se qualifier quand on est qualifié. Quand on est qualifié, eh bien, nos départements, nos présidents, on le sait, hein, quand on est jeune ou moins jeune, quand on est qualifié dans son département, on sait ce jour-là qu'on a déjà rendez-vous le 29 février pour aller gagner un titre au département pour aller au championnat de France. Quand on ne le sait pas, eh bien, Stéphane, j'ai envie de te donner l'adresse du site de la Ligue Île-de-France, c'est www.idf.com, et là donc en première page des jeunes on trouve toutes les informations pour aller s'inscrire donc au championnat, au festival, donc
pendant les vacances scolaires, bien sûr,
pendant les vacances scolaires.
Voilà,
donc
ça c'est un grand événement. Alors,
un grand événement à pas rater pour nos jeunes, effectivement.
Alors forcément, puisqu'on parle de championnat régional pour les jeunes ici, donc 29 février au 4 mars. Sans doute toujours le gymnase Louis Lumière, d'ailleurs.
Oui, toujours le gymnase Louis Lumière, oui.
Qui est rappelle-nous l'adresse, c'est dans quel arrondissement?
Donc c'est rue Louis Lumière, c'est dans le 20e.
C'est dans le 20e.
C'est juste à la porte de Bagnolet.
Voilà,
la
porte de
Bagnolet. Le long du périphérique.
Voilà, donc on a donné les informations. Alors, moi ça me fait penser forcément à la fusion des régions. Hein. On sait que là, on a aussi une activité là, institutionnelle en France en ce moment, ça bouge, puisqu'il y a une fusion de régions qui a eu lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'Île-de-France?
Alors, l'Île-de-France, déjà 8 départements, donc pas de fusion. L'Île-de-France restera avec ses 8 départements. Le ministère et donc, enfin, la fédération via donc le ministère des Sports va nous... Enfin, nous devons faire des élections donc qui élira un nouveau président, un nouveau comité directeur avant le 31 août 2016. Et juillet, août, on est quand même pendant les vacances d'été, donc c'est pas très très simple pour les gens. Donc nous déciderons, donc je te l'annonce Stéphane, enfin je l'annonce à Fréquence Diagonale qui se chargera de l'annoncer donc au monde de la toile des échecs, on fera notre assemblée générale élective au mois de juin 2016 de cette année.
Alors on y reviendra puisqu'on parlera aussi de l'avenir en fin d'émission forcément sur ce point-là. Alors voilà, donc grand événement, et alors du 29 au 4 mars, mais c'est pas tout, je crois qu'il
le 5 mars.
Et voilà.
Donc du 29 au 4 mars, c'est du lundi au vendredi.
Ça c'est pour les jeunes.
C'est pour les jeunes, et le 5 mars, puis le 6 mars, au même endroit, au gymnase Louis Lumière, toujours dans le 20e à Paris, cette fois-ci donc les internationaux de Blitz et Rapide, le RNB 2016.
Ah voilà.
Donc toujours. Alors, le samedi, les jeunes, ils ont encore la force de venir jouer. Donc là, le samedi, on retrouve encore énormément de monde. Les jeunes du samedi, ceux qui sont déjà champions, hein, il y en a certains, ils ont été champions de ligue, eh ben, ils sont là pour se battre face aux meilleurs joueurs de la planète, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis le dimanche, ben, c'est la veille de la rentrée scolaire. Alors là, il faut avouer que les jeunes, il y en a pas mal qui disent « mince, j'ai des devoirs en retard, il faut que je prépare mes affaires de cours ». Donc là, on a moins de jeunes le dimanche que le samedi. Voilà, c'est notre date est celle-là. Les salles dans Paris, c'est compliqué, c'est réservé un an à l'avance.
Oui.
Voilà, c'est peut-être pas une date évidente, une veille de rentrée scolaire, mais malheureusement, c'est ainsi, on n'a pas le choix.
Alors, il y a deux choses difficiles, évidemment, pour si on regarde le R&B par rapport au Festival Jeunes, c'est que pour les jeunes, c'est difficile, puisque à la fois, bon, tu disais, c'est la veille de la rentrée scolaire, et puis aussi, c'est après 5 jours de bataille intense, déjà, et d'émotions. Et voilà, en partie longue, pour se qualifier donc au championnat de France, toute catégorie. Et après, derrière, il y a le R&B international, ben, qui est certes un grand tournoi, mais c'est vrai que ça peut faire fatigant. Ça peut être assez épuisant, mais bon, en général, quand on est jeune, on n'a pas peur de la fatigue.
Non, je crois que c'est les devoirs. Hein.
C'est surtout les devoirs.
Je crois que le dimanche sont les devoirs hein, qui les font rester à la maison. Hein. T'as raison, hein. Les jeunes, ils sont pas fatigués.
Alors, ceci dit, s'ils veulent profiter à fond, ils pourraient faire leurs devoirs la première semaine, parce que c'est 2 semaines non, de vacances. Hein.
Ah oui, mais alors là, après, on n'a pas le droit de.
On n'a pas le droit de cesser.
C'est chaque année. Hein, mais...
Donc alors voilà, donc c'est donc très important à connaître aussi, donc toujours au même endroit, à la suite de ce Festival Jeunes, les 5 et 6 mars, ce fameux R&B 2016, je vous rappelle quand même l'étonnant du titre, rien moins que Maxime Vachier-Lagrave, donc actuellement tu disais quasiment numéro 6 mondial, en tout cas il est rentré dans le top 10 il n'y a pas longtemps,
ouais.
Il vient de gagner à égalité le tournoi de Londres, qu'il n'opère qu'au départage, d'ailleurs un départage un peu douteux sur la formule, hein. Mais on va dire que le terrain était lourd, mais
ouais.
Il a quand même fait le tournoi de Londres où il termine à égalité avec le champion du monde Carlsen. Voilà.
Et donc, quel tournoi.
Et quel tournoi fantastique, oui, de Maxime qui est vraiment au top. On a eu hein, sur Fréquence Diagonale justement un mois avant ce tournoi de Londres et où on les a expliqué justement comment il a abordé sa carrière et sa préparation pour les tournois. On est très content bien sûr de l'avoir eu, ainsi que Laurent Frécinet bien sûr sur Fréquence Diagonale. Donc on a de la chance, on a les vainqueurs finalement. Les vainqueurs R&B passent sur Fréquence Diagonale. Alors est-ce que c'est
bah donc alors idéalement il faudrait qu'il y ait un nouveau vainqueur cette année
pour avoir un nouvel invité. Voilà.
Du coup Fréquence Diagonale a un message à passer à tous les jeunes, c'est de faire les devoirs la première semaine pour être là le samedi et le dimanche sur le R&B, c'est ça.
Ouais voilà par exemple exactement tout à fait. Alors en tout cas voilà et Maxime qui d'ailleurs est francilien.
Et oui, ça me permet de rebondir sur notre saison. C'est que on a eu au niveau international donc Maxime vice-champion du monde de blitz.
Ouais. Hein,
donc Maxime vice-champion du monde de blitz. On a eu Sophie Millet du club d'Evry, championne de la Méditerranée.
Ouais.
Et on a eu Thomas Ariza de Bois-Colombes, champion de l'Union européenne. Donc voilà les résultats de l'année sur le plan international. Sur le plan national, on a eu Christian Bauer de Bois-Colombes qui est champion de France individuel.
Ouais.
On a eu Almira Sprichenko de Clichy, donc championne de France. Et on l'a dit tout à l'heure, Samy Schocker, champion de France de Blitz. On a eu aussi, parmi ces 700 jeunes de l'an dernier, donc 14 catégories au championnat de France. Sur les 14 catégories, on a eu, enfin la Ligue Île-de-France a eu la chance d'avoir 7 titres de champion et de championne de France.
Ah oui, donc 50% hein, des titres. Hein, c'est...
50% des titres pour une ligue, pour une petite ligue qui représente 20% des licenciés. Je pense qu'on a, on peut... Enfin, moi, je suis super fier de tous ces jeunes. Hein, je leur redis, bravo, merci, quoi. C'est grâce à eux qu'on fait du bénévolat.
Alors, on ne peut pas dire que c'est une petite ligue, quand même. C'est que avec hein, 20% des licenciés, c'est quand même tout à fait, bien sûr, important. Il ne faut pas que les autres ligues... puisse se compare non plus, bien sûr, à une ligue aussi importante. Voilà. D'ailleurs, en termes, il faut relativiser aussi, parce que la ligue est certes la plus importante, mais peut-être en rapport du nombre d'habitants, c'est pas forcément la plus forte.
Bien sûr.
On est forcé de citer la Corse, si on veut regarder. Alors là, en Corse, il se passe un truc tout à fait hors norme.
Mais à la fois, sur la Ligue Île-de-France, les jeunes ou les moins jeunes ont la chance de pouvoir faire toutes les activités associatives, sportives possibles. Ce qui explique qu'il n'y a pas de raison d'avoir plus de joueurs d'échecs que de joueurs de foot. Les terrains de foot, l'athlétisme, de piscine, on a tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut sur l'Île-de-France.
Oui, tu veux donc, dire que la concurrence avec les activités est beaucoup plus forte, bien sûr. Il y a la richesse des propositions est très grande et donc... il y a un éparpillement, bien sûr, dans beaucoup d'autres domaines d'activité. Et c'est bien, d'ailleurs, comme ça. Voilà, donc une ligue très forte. Plus de 50% d'élite, parce que 50% c'est les jeunes, mais si on regarde les adultes, comme il y a les deux titres nationaux qui viennent dans l'escarcelle, ça fait plus de 50%. Alors, par contre, pour les clubs, c'est pas un club francilien cette année qui a été champion de France. Hein.
Non, mais sera, ce, enfin, ce sera pour 2016.
On va rappeler.
Pour 2016, hein, quand on voit de, le ouais. top jeune, comment il démarre en ce moment, déjà au niveau des jeunes, la Ligue de France est très très bien placée. Hein. On a Tremblay en France, Bois-Colombes, Villepinte, on est dans des clubs, quand oui. même, on est dans le top du top au niveau des jeunes.
Oui, oui, et puis pas que des jeunes. Hein.
Pas chez, que des jeunes, bien,
chez,
sûr,
chez
bien
les,
sûr.
Chez les adultes, et on peut citer Clichy, qui a le plus grand palmarès en France. Hein. Et voilà, et donc, bon, bien sûr. Donc, alors, bref, donc on a parlé donc, de ce R'n'B 2016. Alors, si tu veux bien, Robert, avant de continuer sur les événements 2016 de la Ligue, et on va parler du championnat de Paris, et on va parler un peu politique avec cette élection dont tu nous as parlé, bien sûr, en juin, et puis les évolutions éventuelles aussi qu'on va pouvoir voir sur cette Ligue. Alors, on va faire une pause musicale, si tu veux bien.
Très bien.
Et on se retrouve donc juste après cette
pause. Ça marche.
Sur Fréquence Diagonale. Thank you. Et nous voici de retour sur Fréquence donc Diagonale avec Robert Iazzoni, le président de la Ligue Île-de-France. Alors, on a fait déjà un joli tour dans la première partie des 90 ans déjà de la Ligue. On a fait un tour aussi des grands événements qui ont eu lieu l'an dernier pour fêter ces 90 ans. On a commencé à parler des événements 2016 avec ces championnats jeunes. Je vous rappelle, du 29 février au 4 mars au gymnase Louis-Lumière, vous pouvez y aller. Donc si vous êtes qualifié, il faut y aller bien sûr pour tenter de décrocher votre billet au championnat de France. Si vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez quand même venir jouer pendant les vacances scolaires pour les jeunes. Et ça se termine en apothéose avec le fameux championnat donc Blitz et Rapide, très important maintenant, grand événement de la Ligue Île-de-France, les 5 et 6 mars. Hein, et je vous rappelle que donc les deux vainqueurs précédents sont les deux stars mondiales, hein, que sont Maxime Vachier-Lagrave et Laurent Fraissinet, qui font partie du top mondial tous les deux, avec Maxime qui est en plein boom actuellement au niveau mondial et qui avait gagné donc ces deux tournois RNB en 2014. Voilà. Pour cette année 2016, Robert, bien sûr, ce dont je voulais parler, bien sûr, c'est ce championnat de Paris qui est aussi très important et qui, lui, d'habitude, a lieu en juillet.
Donc, il aura lieu en juillet cette année encore. Il aura lieu cette fois du 9 au 17 juillet. Et il aura lieu dans un lieu mythique et magnifique qui est le Stade Charletti. Donc, sur Paris, Stade Charletti qui, d'ailleurs, j'en profite, hein, cet été, nous avons l'Euro 2016.
Oui.
Et si la France est en finale, il y a toujours la retransmission de la finale au Stade Charletti. Et c'est le dernier jour du championnat de Paris, hein, toujours. Ça tombe à cette époque-là, le 17 juillet. Donc, pour les joueurs d'échecs qui seront, si la France est en finale, ben voilà, ils seront déjà sur place pour voir le match.
Oui, d'autant que les parties seront terminées, hein. C'est
oui,
ça.
Oui. On ne va pas déranger non plus les joueurs de foot.
Oui. Donc alors, ce championnat de Paris, est-ce que tu peux nous donner quelques informations quelques chiffres?
Depuis 3 ans maintenant, on a testé le petit championnat de Paris. Parce que le championnat de Paris, donc pendant 87 ans, je maîtrise pas les horaires de toutes les années, mais le championnat de Paris, c'était quand même pour un public plutôt adulte, mais à une époque, il y avait, je pense, moins de jeunes qui jouaient, en tout cas ce type de tournoi long, et donc c'est démarré le soir. Donc évidemment, le championnat de Paris démarre toujours à 19h, avec une cadence longue, hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une partie en 2015 qui s'est terminée à 1h20 du matin, mais on va dire en moyenne, les parties vont durer entre 4 et 5 heures. Et nous avons depuis 3 ans le petit championnat de Paris, donc qui lui, au lieu de durer 9 jours, donc le championnat de Paris, je rappelle, du 9 au 17 juillet, le petit championnat de Paris, lui, dure que 7 jours, et les parties ont lieu l'après-midi, ce qui va permettre déjà à des gens qui sont mordus d'échecs de jouer les deux tournois, on en a, et puis qui va permettre à des gens qui veulent amener leurs enfants dans des heures plus raisonnables en journée. Et donc, voilà comment on arrive à presque 700 joueurs, toujours, hein, comme ça l'a toujours été au championnat de Paris. Enfin, c'est arrivé à plus de 800, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. La formule, c'est le grand championnat de Paris du 9 au 17 juillet. Les informations bientôt vont arriver sur notre site de la Ligue, www.idf-échec.com. Et le petit championnat de Paris, 7 jours au milieu de ces 9 jours.
Ah voilà, donc un grand événement en juillet. C'est un des grands tournois en France. Hein. Il fait partie des 3 ou 4 plus grands tournois annuels, ou 5.
C'est le tournoi qui réunit le plus de monde après les championnats de France.
Ouais.
Après les championnats de France, sachant que cette année, il y a eu plus de monde, je crois, je suis sûr, plus de monde au championnat de Paris qu'au championnat de France dernier au mois d'août à Saint-Quentin.
D'accord, ce qui est exceptionnel, mais qui peut arriver, la preuve, voilà, parce que c'est quand même, bien sûr, un très grand tournoi, et Paris est peut-être parfois plus accessible que d'autres endroits. Voilà, un très beau tournoi, d'ailleurs que j'ai, pour l'anecdote, que j'ai pu jouer moi-même quelques fois, j'ai sur le, alors pas le grand tournoi des grands maîtres, bien sûr. Quoique j'ai dû faire une fois l'international, ça m'est arrivé, je crois, une fois. Mais c'est dur, hein. C'est... Et, mais voilà, et sinon plutôt donc les Open, voilà, avec des parties toujours très intéressantes, des joueurs de très bon niveau et une très belle ambiance. Je crois que j'ai vu, je crois qu'il me semble que c'est là que j'ai vu justement la norme qu'avait réussi à ce championnat de Paris à vérifier, je crois, mais de Laurent Vérin, une norme de maître international.
Laurent Vérin a été champion de Paris.
Il a été champion de Paris. Et je crois à vérifier, mais il me semble que j'avais vu qu'il avait fait une norme de maître lors de ce championnat. Je sais pas, même si c'est pas la dernière qui lui manquait. Bon, bref. Alors donc, à l'occasion, je lui demanderai, puisque il est possible qu'il passe sur l'émission un de ces jours. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Oui, voilà, je voulais revenir sur un autre point qu'on a un peu oublié quand on a parlé de l'anniversaire de la Ligue Île-de-France, puisque dans la Ligue, il y a beaucoup de clubs, tu en as parlé, je rappelle, 11 241 licenciés,
ouais,
forcément.
182 clubs. Oui.
Voilà, donc ça, 182 clubs, répartis en 182 clubs. Et on a un des clubs qui vient de fêter cette année ses 70 ans, hein, au moins 70
oui,
ans d'ailleurs.
Un club parisien avec des joueurs fort fort sympathiques.
Voilà, c'est le fameux club de la Tour Blanche, hein, que tu connais.
Un petit clin d'œil à la Tour Blanche. Ils ont fait pour cette occasion un superbe livre qui retrace leur histoire. J'ai eu la chance qu'il me soit dédicacé par leur président actuel, Laurent Yenpin.
Oui.
Et effectivement, un clin d'œil à Tour Blanche, c'est quand même très très beau leur histoire aussi. Hein. Il a été créé en 1945, hein, le lendemain de la fédération, hein, ce club. Hein. Le lendemain de la libération, pardon.
Ouais, de la libération. Alors ils disent au moins 45, parce qu'apparemment, d'après leur, il est possible que ce soit un peu plus antérieur, mais en fait, on peut pas vraiment parler de club. Au sens moderne, puisqu'il faudrait une association, loi 1901, etc. Mais le nom Tour Blanche est quand même au moins ancien à 1945. Voilà.
C'est ça, ouais.
Donc,
ouais.
Avec donc, oui, ce livre historique là, qu'ils ont édité et qui a permis, avec des petites recherches, de retrouver des éléments historiques sur la genèse, l'histoire de ce club. Et aussi des témoignages, hein, d'anciens du club qui ont pu raconter des années 70 ou des années 80. Avait des anecdotes intéressantes, mais on y reviendra sur Fréquence Diagonale, puisqu'il y a un numéro spécial, justement, qui est prévu pour ce club La Tour Blanche, 70 ans.
Il le mérite.
Voilà.
Il le mérite.
C'est quand même pas rien. Alors, donc, voilà, donc je voulais faire quand même ce petit détour. On a parlé de ce championnat aussi 2016, donc il s'annonce bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments prévus pour cette année concernant la Ligue, des évolutions prévues ou des évolutions pour l'an prochain?
Alors, des évolutions non, mais la Ligue, il faut rappeler, hein, c'est pas que ces superbes événements, c'est aussi des compétitions pour tous les niveaux. Hein. Il y a une compétition, je tiens quand même à la rappeler, elle n'existe qu'en Ile-de-France, hein, ce sont les critériums, hein, des compétitions. Donc pour tout niveau où les joueurs d'un même niveau se rencontrent par équipe de 4, donc voilà, il n'est pas question de se déplacer et se dire je vais perdre ma partie. On se dit je me déplace et je vais jouer contre quelqu'un de mon niveau. Et donc ces gens-là, ils se rencontrent 7 fois dans l'année, puis après pour des quarts, demi et finale. Ça c'est au mois de mai toujours, hein, c'est sur les week-ends de l'Ascension. Donc on a ces critériums et voilà, 7 fois dans l'année, ça fait des rencontres. Si on enlève les vacances scolaires, voilà, ils se rencontrent tous les mois, ces gens-là. Donc, et pour tout, voilà, on démarre du moins de 10 ans jusqu'à l'adulte, jusqu'au senior, jusqu'au vétéran, hein, même, voilà, tous les âges. Donc toutes ces compétitions, on a des coupes de la parité aussi, on a des championnats par équipe de moins de 2200, on a des championnats féminins, on va pas oublier les femmes, hein, on a des championnats féminins. On a des manifestations comme Échec en fête. Enfin, la Ligue Île-de-France, c'est une vraie vie des échecs pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Mais bon, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, décider de faire une compétition dans l'année. Hein. Tu as dit toi que tu as fait un championnat et que tu faisais le championnat de Paris. Ben, on peut décider de jouer qu'au mois de juillet. Hein. On n'est pas obligé de jouer toute l'année aux échecs. Mais si on a envie, on peut jouer toute l'année aux échecs.
Voilà, il y a toujours quelque chose à faire. En Île-de-France, il y a beaucoup, beaucoup
Sans
de...
oublier les tournois, bien évidemment, que font les clubs.
Bien sûr, des tournois partout, partout, partout. Alors, donc, et puis de quoi apprendre aussi, il y a des cours. Hein. Donc, alors, tu viens de parler de coupe de parité et d'échecs féminins. Alors, tu as peut-être suivi sur Internet la création d'un site cette année. On a pu recevoir une de ses fondatrices sur Fréquence Diagonale, Aude Soubrier, c'est le site Échecs et Mixte.
Oui, j'ai vu l'interview sur Fréquence Diagonale. Que tu as fait effectivement l'an dernier, enfin en 2015.
Ouais.
Bon, ouais, je regarde ce site, ouais, bah, moi je suis un grand défenseur des droits de la femme, alors là on n'est pas dans les droits de la femme, mais on y est quoi, voilà, ouais, les femmes, allez-y, montrez-vous, on a quand même une double championne de France, Nino Mesoradze, on a la chance de la voir, je crois qu'elle représente aussi... les échecs dans le monde, et puis oui, Aude Soubrier, c'était de mémoire au mois de septembre, hein, dans le
oui.
Fréquence Diagonale, hein.
Ouais, c'est
j'avais,
ça.
J'avais ouais, entendu ça, donc voilà, bah, y a un championnat féminin aussi.
Alors justement, leur démarche est de se questionner l'existence de tournois spécifiquement féminins ou de prix féminins, dont elle critique presque le principe, puisque ça serait ça pourrait être contre-productif de leur point de vue. En tout cas, elle se questionne là-dessus, elle pose des questions, elle se demande, par exemple, on parlait des jeunes, alors il y a des catégories donc spécifiquement réservées aux filles, et il n'y a pas de catégorie réservée aux garçons, parce qu'en fait il y a une catégorie mixte.
Mais,
Et leur discours, en fait, est de dire que l'existence de ces catégories féminines tend à limiter finalement la progression des filles qui vont se diriger vers ces catégories parce qu'elles existent, alors qu'elles iraient tout aussi bien dans les catégories mixtes et progresseraient beaucoup plus et arriveraient à mieux rivaliser avec les garçons. Alors que là, en fait, quelque part, il y a une incitation à ne pas y aller. Qu'est-ce que tu penses de leur positionnement par rapport à ça?
Ah ben, moi, je me souviens de joueuses d'échecs de ma génération qui, lorsqu'elles étaient plus jeunes, disaient bah, c'était presque facile d'être championne de France. On était 4, on était 5 et on jouait contre nous. Mmh. Donc, effectivement, est-ce que lorsqu'on est jeune... Est-ce qu'on est plus triste d'être championne de France parce qu'on a joué que contre des filles? Je suis pas sûr. Moi, je crois qu'elles peuvent être toutes fières d'elles. Quand on est titré, bah voilà, quand on a gagné, bah il y a aucune raison de dire bah mon titre il est moins important que si j'avais joué contre des garçons. Après, de mélanger filles et garçons dans les mêmes compétitions, bah moi j'ai envie de dire. Oui, mais enfin, en continuant à garder des compétitions que pour les filles également, et continuant à garder des compétitions que pour les garçons, il y a plein de sports où c'est le cas. On a filles d'un côté, garçons de l'autre, et entre les deux, une compétition mixte. Hein, le tennis, par exemple, le tennis par équipe. Enfin, le tennis, il y a les femmes qui jouent, les hommes qui jouent, et puis on a des compétitions mixtes en double.
Oui, alors quand tu dis gardons des compétitions que pour les filles, il n'y a pas de compétition que pour les garçons. Elles sont mixtes, en fait.
Ben, c'est ça.
Par
moi,
défaut.
J'aurais envie de dire pourquoi ne pas en créer que pour les garçons à ce moment-là.
Ah oui, voilà, oui. Mais en fait, finalement, oui, mais alors est-ce que cette séparation comme ça est justifiée concernant le jeu d'échecs? C'est-à-dire, autant on peut la comprendre concernant la boxe, par exemple, autant pour le jeu d'échecs, a priori, c'est une question qui est légitime. D'ailleurs, c'est une question qui pose, c'est vraiment quelque chose qui arrive en premier quand des gens découvrent le jeu d'échecs. Ils sont souvent étonnés de découvrir justement qu'il y a des compétitions réservées pour les filles, ils comprennent pas pourquoi c'est séparé.
Et, moi, je suis, tu m'as posé la question, j'ai peut-être pas été direct dans ma réponse, mais oui, je suis pour qu'il n'y ait plus de compétition filles, mais qu'il n'y ait que des compétitions mixtes. Les échecs, c'est l'intellect qui parle, donc les femmes ont le même cerveau que les garçons pour jouer aux échecs. Voilà, donc moi je suis pour.
Alors, et donc tu es pour, mais en fait la question finalement se pose pas aujourd'hui dans le...
Se pose si, parce que comme tu dis, si ce qu'elles disent, c'est les filles, elles sont confortées dans le fait de ne pas aller jouer une compétition mixte.
Ouais.
S'il n'y avait pas de qualifié. Genre on a 14... Nous avons 14 catégories chez les jeunes. 14 catégories. parce que nous avons fille et garçon.
Oui. Et alors donc pourquoi dans ce cas-là ce sujet n'est pas débattu au niveau fédéral parce que c'est la fédération qui
mais
finalement.
Mais moi je me souviens d'une intervention d'un jeune président de club qui est intervenu à l'Assemblée générale après voilà l'Assemblée générale le comité directeur a acté mais je ne crois pas qu'ils en aient discuté. Ça peut-être pas leur priorité, je sais pas, je suis pas dans le comité directeur de la fédération.
Oui, ce qui est encore un autre sujet. Bon, je voulais juste aborder le sujet. Moi, j'ai pas de, je veux pas avoir d'avis là-dessus parce que sinon, ça va être l'horreur. Donc, mais en tout cas, voilà, je pense que c'était un sujet qu'il fallait forcément relever puisque voilà, on les a reçus sur Fréquence Diagonale. Je pense que leur démarche est légitime. La question se pose et donc c'est pour ça que je commençais à te la poser.
Puis c'est bien si on se pose des questions, c'est qu'il y a matière à.
Ouais, il y a un sujet quoi. Il y a un sujet.
À avancer. Ouais,
il y a un sujet à réfléchir et peut-être à reconsidérer d'une autre façon. Alors donc c'est bien qu'on ait parlé de ces points. Alors tu en as parlé un petit peu dans la première partie. On y vient. On arrive en 2016. Des élections sont prévues. Je ne sais pas si les élections sont prévues de manière régulière au sens ça suit 4 ans après les dernières ou si c'est dû à la fusion des régions, tu vas nous répondre.
Au niveau des échecs reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, nos élections doivent être dans tous les sports cette année, c'est-à-dire l'année qui suit les Jeux Olympiques. Donc tous les 4 ans, nous devons faire des élections.
Ouais.
L'équipe actuelle, dont je suis le président, nous avons été élus en janvier 2013, donc pour 4 ans, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2017.
Et voilà.
La fusion des régions fait que nous devons avancer nos élections et les faire avant le 31 août 2016.
Oui.
Et nous avons décidé, donc voilà, l'info en prime sur Fréquence Diagonale, de les faire en juin 2016.
D'accord, voilà, donc c'est bien la fusion des régions qui vous pousse à accélérer le calendrier. Alors forcément, tu es président de la Ligue Île-de-France, tu t'es beaucoup investi, toujours avec bonne humeur hein, d'ailleurs et beaucoup d'énergie, on a pu le constater, notamment tu souris toujours hein, sur les photos, je crois que ça c'est bien, ça c'est bien. On a vu aussi que d'ailleurs tu t'essayes au triathlon, j'ai pu voir ça.
On n'est pas obligé de s'étendre dessus, j'essaie que 295e.
Voilà, mais ce qui n'a rien à voir, donc ça nous éloigne de notre sujet. Mais, donc, les élections arrivent. Alors, forcément, la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu comptes te représenter? Est-ce que tu as pris une décision ou pas?
La décision, je l'ai prise et annoncée dès le début.
Oui.
Alors, je ne l'avais pas annoncée à tout le monde, bien sûr, mais j'ai toujours dit que je ferais 4 ans de bénévolat.
Oui.
Et que je ne me représenterai pas aux élections suivantes parce que je trouve que la fête est trop belle pour que ce ne soit pas d'autres qui en profitent.
Oui, voilà, d'accord. Donc tu veux quand même.
Ouais. J'ai eu la chance de bénéficier de nouveau d'un nouveau mode de scrutin qui était le scrutin de liste.
Oui.
Ce qui n'était pas le cas avant. Et scrutin de liste, c'est pas simple hein, de trouver des bénévoles pour s'investir, parce qu'ils sont déjà investis dans leur club, hein.
Bien sûr. Enfin,
qu'ils n'ont pas envie, hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas investis. Celui qui n'a pas voulu faire quelque chose, c'est souvent parce qu'il fait déjà autre chose ailleurs. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir présenter une liste, et dans la liste, je me suis entouré de gens qui ont, comme tu dis, la banane comme moi, souvent.
Hein, oui.
Voilà, donc 4 années, le bénévolat c'est ça, c'est on a envie, des fois on n'a pas envie, on n'a pas d'obligation, hein, on n'a pas l'obligation de répondre présent, de répondre aux mails, répondre au téléphone, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite non plus. Mais en tout cas l'aventure est magnifique, donc j'ai terminé mon rapport moral de cette année en disant. Et là, je leur dis sur Fréquence Diagonale, hein, je suis optimiste sur notre avenir et surtout sur votre avenir, hein, celui des licenciés et des non-licenciés aujourd'hui. Les échecs, elles se développent grâce aux bénévoles. Donc pensez-y, quoi, voilà, pensez-y, elles se développent, les échecs. Je veux dire, nous, comme tu l'as dit, nous avons créé le RNB, faite avec une équipe.
Ouais.
Nous avons fait une superbe année 2015 avec 700 jeunes, avec un tournoi de maîtres et un championnat, un R&B avec Laurent Fraissinet qui fait le doublé, Maxime Vachier-Agraf qui vient pour lancer la dernière ronde, et un championnat de Paris magnifique avec plus de 700 joueurs. Nous l'avons fait, hein. C'est pour ça qu'on fait du bénévolat. Et donc voilà, moi j'avais dit il y a 4 ans, j'avais dit que je révolutionnerais pas la ligue. Je l'ai pas révolutionné. On partira avec une ligue aussi saine que quand nous l'avons trouvée. On a trouvé une ligue saine financièrement, saine dans son organisation. Et ben on va partir avec en laissant derrière nous une ligue aussi saine. Et puis voilà. Et puis j'espère vivement que ceux qui vont reprendre vont s'éclater autant que nous, parce que voilà, des années magnifiques. Mais voilà, mais j'arrête en tout cas au mois de juin cette année.
D'accord. Donc alors deux choses. Alors je suppose que la première chose, le nombre de mandats que peut faire un président de ligue, c'est combien? C'est un,
c'est
deux.
C'est deux.
D'accord. Comme la Fédé aujourd'hui,
c'est limité à deux. Voilà, comme toutes les démocraties.
D'accord. Et oui, on pourrait parler de la. Ah, j'ai parlé de la FIDE, non, la FFE. La FFE, c'est vrai, mais c'est pas vrai pour la FIDE, justement. La FIDE,
non, c'est pas vrai pour la FIDE.
La FIDE est une démocratie bizarre. Mais la FIDE, c'est la Fédération internationale, hein, pour les auditeurs. Autre point qui m'intéresse et qui va sans doute intéresser les auditeurs. Alors, je crois que pour se présenter à la Ligue Île-de-France, il n'y a pas besoin d'être président de club.
Non, il faut être licencié en Île-de-France.
Licencié suffit. Et alors après, un autre point, je suppose que... alors bien sûr, il y a le plaisir d'organiser des grands événements, de côtoyer les plus grands joueurs de la planète, de leur remettre des prix, de gérer aussi l'organisation. Je pense qu'il y a là... un niveau d'organisation quasiment professionnel, et je suppose aussi qu'il y a des rencontres, des réunions avec les instances politiques, que ce soit la mairie de Paris, que ce soit la région.
Alors, peut-être pas les instances politiques, mais en tout cas des exécutants de la mairie de Paris, effectivement, au niveau des salles, hein. On n'est pas dans de la politique quand même, hein. on a affaire à des gens des services des sports,
oui.
Mais évidemment, on a toujours des relations... avec mairie de Paris Haute, hein, je le dis, je serai au vœu d'Anne Hidalgo mardi prochain à Paris. Hein.
Voilà.
Voilà, ça fait partie de notre action bénévole, c'est d'aller dire, ben voilà, vous êtes un élu, vous connaissez peut-être pas le milieu des échecs, eh ben venez nous voir. Hein. On a eu l'année dernière à la remise des prix de notre championnat jeune, enfin en 2014, pardon, on avait quand même une députée qui était là pour la remise des prix.
Oui.
Hein, c'est pas rien quand on a une députée d'une circonscription parisienne qui vient, qu'on a Madame le maire, voilà, on a des élus politiques qui voient. En plus, on est au gymnase Louis Lumière pour les jeunes, un quartier sensible. Bah oui, voilà, nous les jeunes, c'était un petit peu si je peux employer le mot deal, hein, c'était voilà, on organise quelque chose sur votre territoire, et ben tous les jeunes pendant les vacances scolaires, vos jeunes des quartiers, vous pouvez nous les amener, on va leur faire une initiation aux échecs.
Oui, et alors tu parlais de la ville de Paris, tu as parlé d'une députée qui vient assister à une remise des prix, et la région, je suppose aussi, il y a des contacts aussi techniques au moins.
Oui, bien sûr, oui. Des contacts techniques avec la région. Hein, la région finance, grâce à la région, nous pouvons organiser aussi toutes ces manifestations.
Oui.
Hein, après... Je n'invente rien pour tous nos bénévoles. Les subventions, elles baissent partout en France. Hein, elles baissent partout. Donc, ce qu'on peut pas faire, c'est pas grave. On fera avec l'argent qu'on aura. On n'a pas un budget élastique. On n'est pas un centre de profit. Voilà, on a une subvention. On a deux salariés qui font tourner aussi la boutique. Hein, on organise toutes ces manifestations. Bah, grâce à donc la mairie de Paris et la région, effectivement, et leurs subventions.
Voilà, une grosse machine, donc la Ligue Île-de-France des échecs. Donc rendez-vous pour ces élections donc anticipées, hein, suite à la fusion des régions en juin 2016. D'ici là, donc, en résumant, eh bien, du 29 février au 4 mars, le festival international, enfin,
le festival
francilien.
Le
festival francilien des échecs avec qualification pour le championnat de France et des titres de champions régionaux à gagner. Bien sûr suivi donc du fameux R&B, alors là c'est vraiment niveau international, 5 et 6 mars, toujours au gymnase Lulumière, donc dans la foulée. R&B, c'est-à-dire rapide, partie rapide 15 minutes par joueur et partie blitz 5 minutes par joueur le lendemain, deux tournois différents mais deux parties donc rapides.
Avec la présence de Stéphane Laborde.
Avec Stéphane.
Qui... Fréquence diagonale, et l'année dernière Stéphane, il me semble... que tu nous avais fait l'honneur de venir nous parler de ton livre.
Oui, l'an dernier, oui, effectivement. Oui, oui, de Philidor.
Il n'y en a pas un autre qui est sorti au 13 octobre?
Oui, exactement. Oui, merci.
Ben, voilà, Stéphane, rendez-vous avec ton bouquin.
Voilà, rendez-vous, oui, bien sûr. Il y a le Ruy Lopez aussi, le fameux Ruy Lopez qui n'avait pas été réédité depuis 450 ans quasiment. Hein. Donc, c'est ça, voilà, qui effectivement vient de sortir et que... Ben je ferai découvrir ceux qui voudront une dédicace, je serai là. Mais j'essaierai aussi de jouer et puis d'accrocher, on ne sait pas, on peut accrocher.
D'accrocher, on ne sait pas, l'année dernière, j'ai vu que tu as fait un beau parcours. Hein. Tu termines derrière une pléthore de titrés, hein. Tu termines dans les 30 premiers. Là. Devant toi, il y a un grand maître, il y a André Tchekachev, là, c'est pas n'importe qui. Tu termines ex aequo avec lui, et puis devant toi, il n'y a que des titrés hein, pour terminer avec Laurent Fressinet. Tout en haut, mais je crois que t'as fait un bon tour l'an dernier.
Oui,
hein.
Le Stéphane, et quand il est en forme, il tient la route. Alors donc, il faut qu'il soit en forme aussi, c'est un problème. Alors donc, très bien, merci pour la publicité sur ça, bien sûr. Bon, et moi j'y serai pour soutenir ce fameux R&B, Bob Robert dit Bob, hein, donc on dit Bob aussi. Hein. Tu aimes bien ce résumé de ton prénom, donc ce diminutif. Alors on a dit donc juin ces élections et puis enfin donc championnat de Paris du 9 au 17 juillet voilà donc moment très important aussi pour cette Ligue Île-de-France qu'on a plaisir à retrouver tous les ans. Ça fait partie des ligues que j'espère avoir chaque année, puisqu'il y a toujours...
Le nouveau président, c'est dans le contrat. Hein.
Et voilà, le nouveau président, ça fait partie, bien sûr, de ses prérogatives. De venir...
Merci à Fréquence Diagonale.
Voilà, c'est normal, il faut aussi un petit peu communiquer sur le jeu d'échecs. Merci à toi, Bob, pour cette émission.
Merci Stéphane, merci Fréquence Diagonale.
Voilà, merci de nous avoir suivis sur Fréquence Diagonale. Et puis donc, je vous laisse avec notre générique fétiche, hein, sur Fréquence Diagonale, c'est Broken Embraces. Au revoir, à bientôt.